En scène, s'il vous plaît. Les trois coups vont retentir, le rideau va s'ouvrir, nous allons nous plonger dans les salles de théâtre, là où les comédiens vont nous offrir leur palette d'émotions. Du rire aux larmes, mais surtout du rire. Dans ce sixième volet de nos archives du rire, nous allons entendre les rencontres avec les hommes de théâtre, quelques femmes également. Mais avant que le rideau se lève, nous allons entendre Michel Galabru. Une rencontre magnifique en janvier 1993. En une phrase, le grand comédien nous rappelle simplement que le théâtre, c'est la vie, et la vie, c'est du théâtre.
Tout est théâtre. À mon sens, c'est pas une déformation professionnelle, je trouve que tout est théâtre, même l'univers, c'est un décor, l'univers. S'il y a un dieu, il a voulu faire une représentation théâtrale où tous les éléments, toutes les étoiles, tout ce décor de ciel, de couleurs éclatantes. Bon, qu'est-ce que fait l'homme ? L'homme, par ses génies, les peintres géniaux, tout ça, il a essayé de reconstituer, de refaire, de redonner ses impressions. Mais le grand créateur de tous ces trucs, on ne sait pas qui est-ce, mais enfin, c'est splendide.
Les archives du rire.
Le rire est une évidence dans le théâtre. Le boulevard, le vaudeville, les farces et même le théâtre antique chez les Grecs et les Romains dénonçaient avec un certain humour les travers des hommes, des femmes et de la société. Dans les gens de théâtre que j'ai eu la chance de rencontrer, il y a Jean-Claude Brialy. Il connaissait de la scène et du spectacle. Il connaissait tout du cinéma également. Moi, je me souviens l'avoir entendu à la radio raconter les carrières des monstres sacrés avec une aisance incroyable. Tout était truffé d'anecdotes. Des anecdotes si succulentes que Jean-Claude Brialy a non seulement écrit des livres sur les comédiens qu'il admirait tant, mais il les racontait en scène, notamment au festival Juste pour rire à Montréal. Le rire et le théâtre sont indissociables, me rappelait Jean-Claude Brialy le 6 octobre 1996 à Fribourg.
Vous savez, d'abord, je crois que non seulement dans le théâtre, ou enfin dans des milieux artistiques, si on n'a pas d'humour dans la vie, on est foutu. Je crois que les deux mamelles, comme disait Sully à propos de pour la France, il disait... les deux mamelles de la France sont l'intelligence et le cœur. Je crois que si on n'a pas d'amour et si on n'a pas d'humour, on est foutu, on est perdu. Les gens qui n'ont pas d'humour, et j'en connais, sont tristes, sont ennuyeux, sont malheureux, n'ont pas de soleil dans leurs yeux. Et c'est vrai que j'ai croisé dans ma vie des gens merveilleux qui étaient très intelligents ou qui étaient des grandes personnalités, que ce soit, pour les citer un peu en vrac, que ce soit Marcel Aimé ou Albert Camus ou Jean Cocteau ou Luchino Visconti ou Maria Callas ou Marlène Dietrich ou Joséphine Baker ou Romy Schneider ou Simone Signoret ou Jean Gabin ou, enfin tous ces gens qui ont été mes amis qui ne sont plus là aujourd'hui, ou François Truffaut, avaient quelque part un sens de l'humour, de la dérision. Évidemment, on ne peut pas toujours rigoler de tout, mais dès qu'il y a une chose... Vous savez, je crois qu'il y a une phrase qui dit « La gravité est le bonheur des imbéciles », disait Montesquieu. Et je crois que les gens qui se prennent trop au sérieux, qui sont trop sages, trop tristes, sont malheureux. Dans ma vie, en tous les cas, moi, depuis que je suis enfant, j'ai toujours aimé rire.
Paris, le 6 avril 1989. L'un des comédiens qui connaît le plus grand succès, c'est Jean Lefèvre. Une drôle de vie pour ce Français né dans une famille bourgeoise en 1922. Un gosse qui a eu la polio, un soldat condamné à mort. Il raconte sa drôle d'existence dans son livre « Pourquoi ça n'arrive qu'à moi ?» sorti en 1984 aux éditions Michel Lafon. On comprend alors ce Jean Lefèvre qui ne veut qu'une chose, partager le rire.
Si tu mens, c'est que tu dois sans doute avoir une bonne raison.
Ah ça oui, excellent.
Tu veux la connaître?
Pourquoi? Tu vas me la donner?
Si tu veux.
Oh, la vraie raison?
Bah, évidemment.
Oh, ça y est, tu as le temps de te préparer un mensonge sans tête d'épagneul. Enfin, je veux dire, un mensonge que je ne verrai pas.
Ah non, la véritable raison vraie.
Bon, alors j'écoute, mais je te dis pas que je te croirai.
Ah là, je te garantis que tu vas me croire. Parce qu'une raison comme celle-là, ça ne ressemble pas à une excuse.
Voyons.
Hein. Tu l'auras voulu, hein?
Mais oui, allez.
Eh ben voilà, j'ai une maîtresse.
Comment?
J'ai une maîtresse.
Toi?
Oui, moi.
Je le rencontre dans sa loge entre deux actes, à ce moment précis où tant d'acteurs et de comédiens ne veulent pas être enquiquinés par un journaliste, et je les comprends. Jean Lefebvre, lui, m'accueille dans sa loge au Théâtre des Nouveautés à Paris.
D'abord, les patrons sont des amis. Et puis, le théâtre, pour ce genre de spectacle, est très agréable parce que on est près du public, on a un contact avec le public et c'est très, très agréable pour un acteur.
Sur la brochure, on voit que c'est une de vos spécialités d'être très en contact avec le public et on se rend compte à la fin du spectacle que votre petit plaisir à vous, c'est de parler encore avec le public après.
Oui, parce que je trouve qu'à l'heure actuelle, les acteurs se prennent trop au sérieux et il faut qu'on sache qu'on n'est pas là pour nous, mais pour eux. Mmh. Et il faut leur prouver qu'on est avec eux et qu'on est de tout cœur avec eux. C'est pour ça que j'aime bien, vous entendez, le spectacle commence dans 5 minutes. Et c'est pour ça que j'aime bien être en contact avec eux, leur parler de tout et de rien, de la vie et de tout. Et d'ailleurs, je crois que ça les touche beaucoup.
Mais non. Mais regarde-moi ça. Mais dans un vrai verre, alors.
C'est un verre à cognac, ça.
Mais non, c'est un bain d'œil, oh. Ça. Oh. C'est pas vrai.
Ça te va?
Ah, ben là, voilà. Là, ça fait sérieux.
Et puis, ça, c'est un verre à eau.
Mais il n'y a aucune raison d'appeler ça un verre à eau. C'est un verre à eau quand tu mets de l'eau dedans. Et quand tu mets du cognac, c'est un verre à cognac. Allons.
Ah, ça, c'était un extrait des Vignes allons, du allons, Seigneur. Allons. Jean Lefebvre et allons. Bernard Dumaine qui jouent la scène de l'ivresse au Théâtre Michel à Paris en 1978. Jean Lefebvre, lui, aimait bien partir en tournée avant de présenter les pièces de théâtre à Paris.
Oui, parce que je trouve qu'on favorise trop les Parisiens, et pour une fois, j'ai dit, je vais d'abord donner la préférence à la province. Mmh. Et on a fait une tournée déjà, et on refait une tournée avec les Galas Carcenti au mois de janvier, pour à peu près encore 100 villes, une centaine de villes, la Suisse, la Belgique.
En dehors du spectacle, vous êtes un personnage, vous vivez assez, je suis assez étonné de voir que, par exemple, vous arrivez presque au moment où le spectacle commence. Vous n'êtes pas un artiste qui a énormément le trac, qui doit vraiment se concentrer avant de commencer un spectacle.
Non, il faut, au début on a le trac, évidemment, au début d'une pièce. Mais après, moi j'aime pas arriver trop en avance parce qu'on s'endort. On reste là, tandis que si on arrive à la dernière minute, on est sur les nerfs et hop, on rentre sur scène et puis c'est parti.
C'est un truc pour vous, c'est un de vos trucs?
Oui, moi c'est j'adore ça. Parce que si je tourne ici en rond dans la loge, ça m'ennuie. Et puis ça j'ai plus le punch que j'ai si j'arrive comme ça en vitesse. J'aime mieux comme ça, moi. Il y en a qui préfèrent arriver 2 heures avant. Moi pas.
J'ai un bon souvenir de Micheline Dax, une grande dame distinguée qui a touché à toute forme de spectacle. Elle a aussi bien chanté les grands classiques américains que doublé Piggy la cochonne dans le Muppet Show. C'est une comédienne classée dans le monde des comiques. Elle, Micheline Dax, qui ne rêvait pourtant que de tragédie.
J'ai fait rire mes petites camarades à l'école, mais je comprenais pas pourquoi. Parce que j'étais une enfant horriblement timide, et que je ne pensais pas du tout que j'étais rigolote, d'abord. Hein. Je voulais être tragédienne, vous savez, comme toutes les jeunes filles qui veulent faire du théâtre, parce que c'est noble de jouer la tragédie. Puis on ne dit pas à ses parents, voilà, je veux faire du théâtre et je vais être rigolote, ça c'est pas possible. Alors on dit tout de suite, on vous voit dans des rôles extrêmement dramatiques. Moi c'était Bérénice. Et puis non, ça s'est pas fait comme ça du tout. J'étais chez Simon et il m'a dit un jour devant tout le monde, arrête-toi, tu es une comique. Et le mot m'a blessé jusqu'à aujourd'hui. Oui. J'étais épouvanté, c'est un mot qui m'a désarçonné, vous savez, surtout à l'époque. Une femme, comment une femme peut être comique, c'est horrible. Et je regrette pas si c'est vrai, pas du tout. C'est merveilleux d'entendre le rire des gens, c'est extraordinaire.
Oh, lumière de ma... ma vie, grenouille de mon cœur, enfin nous sommes seuls.
Ah non, toi tu vas te retrouver toute seule, moi je vais paraître sur scène devant des milliers de gens.
Quelle honte! Ah, que c'est dur pour une belle cochonne à la fleur de l'âge d'être aussi dédaignée. Ah!
Il y aurait une définition pour le rire à votre avis?
Je crois que c'est la surprise, les gens rient parce que on leur dit quelque chose à un instant, ils n'attendent pas justement ce mot-là ou cette situation-là à l'instant où ça se fait, et c'est la surprise.
Les archives du rire.
Une autre approche du rire au théâtre, celle de Marthe Villalonga. Née en Algérie, elle va tout faire pour être admise dans le monde du théâtre. Et pour elle, le rire, c'est une force qu'elle va découvrir dès son plus jeune âge.
Je ne sais pas si je me suis découvert ce don, mais ce que je sais, c'est que j'ai toujours eu envie de faire le guignol. Donc effectivement, de faire rire, de m'amuser, de faire plein de choses comme ça. Voilà.
Vous avez toujours eu un tempérament de guignol, vous vous souvenez oui. De votre jeunesse, de moments drôles?
Oui, ben disons que, encore une fois, de toute petite, j'ai eu envie de me déguiser, mais enfin ça, il y a plein d'enfants qui sont comme ça, hein. On met les trucs des mamans, on essaie de se mettre un chapeau, du rouge à lèvres, etc. Et c'est vrai que on n'a pas tout de suite conscience, mais c'est vrai que quand on va par exemple en classe, à partir d'un certain âge, on fait rire les copines. Mmh. Et c'est vrai aussi que moi je me suis trouvée avec des amis plein d'années plus tard, et qui me disent « mais on n'est pas étonné que tu fasses ce métier parce que tu nous faisais tellement rire ». Et je ne me souviens pas de ça. C'est-à-dire que je me souviens de fou rire, de rire avec les camarades, mais pas forcément venant de moi.
J'ai épousé Saint-Marie avant d'épouser un milliardaire. Et je le resterai, que M. Bezos le veuille ou non.
Mais enfin, on peut tout de même être heureux sans argent.
Sans argent? Non, ma chérie, non. Non, je suis désolée, pas sans argent. Et puis je t'en supplie, ne viens pas me raconter avec tous ceux qui ne s'arrêtent pas d'en gagner que l'argent ne fait pas le bonheur, sinon je te gifle. Et j'ai le droit de te gifler, parce que moi je sais ce que c'est que d'être pauvre. Et jusqu'à ma mort, je hurlerai qu'il vaut mieux ne pas être heureux avec 100 millions de rentes que d'essayer de l'être en étant fauché comme les blés.
Entre les deux, il y a peut-être une moyenne.
Non, ma chérie. L'argent, c'est la dernière chose qui supporte la moyenne. Il faut vouloir tout l'argent du monde pour en avoir seulement. Beaucoup. Enfin, suffisamment. Et même alors, ce n'est pas assez, ce n'est pas sûr.
Donc, je n'ai pas été, ni noyée par le succès, et non plus...
pas oubliée.
Voilà. Voilà, j'ai pas ressenti ça en me disant c'est fichu, après ça, etc. Non. J'ai eu, je dirais, des trous tout à fait normaux, comme n'importe quel comédien a eu en début de carrière. Enfin, en principe, tous les comédiens, à part quelques exceptions, mais bon, là, il faut être une jeune première, très belle, grande, superbe, là, c'est différent. Comme moi, ça n'a jamais été le cas.
Mais vous êtes belle de l'intérieur.
Ah oui, non, mais c'est très bien comme ça, je vous dis, moi, je suis ravie.
Une surprise, un coup de théâtre, pourrait-on dire, c'est Daniel Evenou et Popek qui sont à l'affiche de Encore vous, une comédie de Pierre Gesnaud. Une véritable pièce pour deux comédiens. Popek, c'est un vieux garçon qui aime jouir de sa tranquillité. Et Daniel Evenou, elle, c'est la voisine du dessus qui vient d'emménager et qui tente de dégriser un petit peu ce célibataire. Surprenant peut-être de découvrir ces deux comédiens dans une pièce de théâtre, mais il faut justement rappeler ici que Popek et Daniel Evenou sont d'abord issus du monde du théâtre.
Je crois que là, vous venez de trouver, vous venez de taper du doigt quelque chose de très juste. C'est que si moi, je n'avais fait que ça toute ma vie, du one-man show, Daniel ne jouait que, par exemple, des feuilletons de télévision où elle aurait été toujours la pervenche, par exemple. Elle aurait pu faire son numéro de pervenche et moi, mon numéro de one-man show. Et ça donnait quoi? Ça donnait deux numéros qui jouent chacun une pièce différente dans la même pièce. Donc, je crois que ce qui stupéfie les gens dans cette pièce, c'est la découverte de deux comédiens. Parce que nous avons une formation de comédiens et qu'on s'efface derrière un texte d'un auteur et qu'à partir de ce moment-là, on ajoute nos propres qualités avec une grande sincérité. C'est-à-dire, moi je m'interdis de faire, comme vous dites, du Popek de One Man Show, Et Daniel s'interdit aussi de faire certaines facilités qu'elle pourrait si elle le voulait, parce qu'elle a un grand tempérament comique. Donc, disons qu'on... Pour nous, c'est le sujet de la pièce qui compte d'abord, la situation, et puis la sincérité que le public trouve chez nous. C'est peut-être justement parce qu'on évite ces débordements qui sont la facilité.
Vous n'avez jamais été marié ?
Et je suis définitivement contre le mariage. Il est très beau, hein ?
Voulez-vous le reprendre ?
Non, il est très bien ici.
Peut-on savoir pourquoi vous êtes contre le mariage ?
Ben, simplement, je trouve que les gens se promettent un amour éternel un peu trop légèrement.
Oui, c'est toujours aussi ce qui m'a fait hésiter.
Avez-vous remarqué que lorsqu'un jeune homme et une jeune femme décident de se marier, les parents éprouvent le besoin de les crier à la face du monde. Tout ça pourrait être à la rigueur sympathique si, une fois sur deux, 3 ans plus tard, on aurait trouvé ce même couple rasant les murs du palais de justice pour se rendre devant les juges des conciliations. Et alors là, le divorce devient une espèce de cérémonie clandestine qu'on cache comme une maladie honteuse. Savez-vous combien de divorces ont été recensés en 1994?
Non.
107 000.
Tant que ça!
Rien que pour la France, je me suis documenté. C'est pourquoi je estime que, pour être logique, on devrait revoir les modalités du divorce et obliger les époux à refaire la même cérémonie que pour les mariages, mais à l'envers. On réimprimerait des cartes. Messieurs et Madame Martin ont l'honneur de vous faire part de leur divorce. On réinviterait les parents, les amis, les témoins. On repasserait devant Monsieur le maire. Monsieur Martin, vous ne voulez plus pour épouse Madame Martin. Et Monsieur Martin répondrait à haute et intelligible voix. Non, même chose pour Madame Martin. Vous ne voulez plus pour époux de Monsieur Martin.
Non.
Je vous déclare désigné des liens du mariage. Et puis je paierai rendre les cadeaux. Parce que vous avez remarqué que lorsqu'un couple divorce au bout d'un an, il ne rend jamais les cadeaux.
Le public est ravi, c'est sublime, c'est quand ce soir nous sommes dans le lit à moitié nus tous les deux, auréolés de drap blanc, et le public, de nous voir tous les deux dans un lit, se met à applaudir et à rire. Et ça, c'est un moment pour nous. Nous sommes dans les bras l'un de l'autre, et c'est tellement, je pense, surprenant. Je crois qu'ils sont très surpris quand même. Même nous, nous on est encore surpris. C'était aujourd'hui, je crois, la 20e. Ça me surprend toujours d'être dans un lit nu contre Popek.
Faire rire au théâtre, ce n'est pas l'exercice le plus simple. Rencontre avec Robert Lamoureux et Jacques Balutin. Ils jouaient les deux dans la pièce de Robert Lamoureux, si je peux me permettre.
Vous savez, c'est beaucoup plus difficile de faire rire. Bon, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, mais c'est beaucoup plus difficile de faire rire que de faire pleurer. Faire pleurer une salle, c'est rien du tout. C'est que dalle. Faire pleurer une salle de cinéma, c'est rien. Mais c'est rien du tout, pour un acteur comique, j'entends. C'est rien. Faire rire, c'est très difficile. Mais faire pleurer, un doigt dans le nez, moi, je fais pleurer. Donc, ça m'est déjà arrivé, comme Bourville, comme Carmet, comme Fernandel, comme tous les grands comiques, vous les foutez dans un rôle dramatique où ils doivent émouvoir, Galabru dans Le Juge et l'Assassin.
Bien sûr.
Prodigieux. Bon, n'empêche que derrière, il a tourné des trucs qui font rire parce que c'est sa nature profonde.
Mais on dit toujours qu'un comique doit, à un moment donné ou à un autre, faire un rôle dramatique. Vous avez cette impression aussi ? Vous avez été appelé, justement, par un rôle un petit peu plus dramatique ?
Non, ils ne m'ont pas appelé. Ils ne m'ont toujours pas appelé.
Mais vous, est-ce que vous sentez ce besoin ? Est-ce que vous vous dites, ça fait tant d'années que je fais rire, moi j'ai bien envie de faire transparaître une autre émotion.
Ah non, pas du tout. Pas du tout. À moi, pas du tout. À moi, je m'en ai rien à secouer. Moi, s'ils peuvent continuer, moi je peux continuer comme ça jusqu'à ce que je crève en les faisant rire, ça me dérange pas du tout. Mais pas les faire pleurer, ça ne me dérange pas du tout. J'ai pas du tout, je veux pas jouer Cyrano de Bergerac, je veux pas jouer Oscar, Néron, je m'en fous réellement. Non, moi je veux bien continuer à faire des rôles comiques, ça me dérange pas.
Allô
du tout.
Allô, je voudrais pas la mademoiselle Bubble, s'il vous plaît. C'est toi ou c'est moi, chérie? Ça y est, oui, j'en suis sûr. Mais oui, enfin, j'en suis certain. Tu vois que c'était pas la peine de t'impatienter. Tu peux amener tes affaires quand tu veux. Oui. Oui, moi aussi, mon trésor. Oui, mon trésor, moi aussi. Moi. Écoute. Tu dois vous écouter ce que je dis maintenant.
Oh, monsieur, j'entends, c'est tout.
Oui, ben justement.
Oh, monsieur, j'en ai entendu d'autres.
Oui, allez, ça va bien. Qu'est-ce que vous voulez?
Eh bien, comme monsieur me l'a demandé, je viens d'avertir madame que monsieur était là.
Ah, c'est vrai, merci. Dites-moi, Victor, voulez-vous aller me chercher un peu de glace, s'il vous plaît?
Mais certainement, monsieur.
Ce qui est étonnant dans le rire, c'est que... par moments, des fois, on fait une chose... Bon, moi, je lis une pièce comique. Si je ris, je sais qu'ils riront. Si moi, je ris, je sais que je les ferai rire à cet endroit-là, je le sais. Et il y a des fois des choses qui me font rire, moi, dans la pièce, et Ça passe pas dans la salle, il se marre pas. Et alors je cherche pendant tout le temps où je joue, je peux chercher 400 fois, 500 fois, jusqu'à ce que je les fasse rire parce que je comprends pas pourquoi ils rient pas. Mais ce qui est étonnant, et ça m'arrive même encore ce soir, je joue une pièce, et ça m'est arrivé avec Robert Lamoureux plusieurs fois, ils rient et je ne sais pas pourquoi. Et je vais jouer 400 fois en les faisant rire à un endroit et je ne sais pas pourquoi ils rient. Alors je leur fais pareil tous les soirs, ils se marrent tous les soirs, mais je sais pas pourquoi. C'est un truc que je ne me vois pas le faire. Ça m'arrive souvent.
Il y a donc une règle, et parfois une règle qu'on ne maîtrise pas.
Absolument. Ouais. Vous savez, les effets comiques, c'est une question de un effet comique, c'est une question de timing. C'est pour ça que presque tous les comiques chantent bien, parce qu'on a une très bonne oreille musicale. C'est une question de son. Un effet comique, c'est une question de son et de tempo. Vous faites pan pan bing, l'effet se fait. Vous faites pan pan papin, et l'effet se fait pas. C'est aussi mystérieux que ça, un effet comique.
Robert Lamoureux a écrit de nombreuses pièces de théâtre après avoir été un comique, créant des sketchs célèbres comme La chasse au canard ou Papa, maman, la bonne et moi. Pour écrire une pièce qui lui demandait plus d'une année de travail, Robert Lamoureux s'inspirait de l'actualité.
Si on s'en tient à l'actualité, il y a une pièce à écrire tous les ans nouvelle, sur un sujet nouveau. Parce que de tels scandales de 95 n'est déjà plus scandaleux en 96.
C'est déjà du passé.
Oh là là, c'est oublié. On a trouvé mieux. Vous comprenez, c'est comme ça. C'est les vaches folles, vous comprenez. Ça vous tombe un jour dessus, vous apprenez que les vaches sont folles et dramatiquement dans l'actualité. Mais si on savait la vérité, il y a probablement 15 ans qu'on sait que les vaches portent la maladie, et c'est seulement maintenant que vraiment,
s'en inquiète, vraiment
on ne peut plus faire autrement que de le dire. Mais,
alors là, vous êtes un petit peu là pour appuyer sur le champignon, si j'ose exactement dire, lorsque vous écrivez une pièce, vous vous dites là c'est trop gros, ça va éclater, je suis obligé d'écrire quelque chose.
Voilà, c'est-à-dire j'essaie d'enfoncer le clou avant que le clou soit connu, mais voilà, mais il y est.
Elle veut que je fasse des affaires sans piège ni magouille. Des affaires... Comment on dit, il y a un mot pour ça. Marcel !
Un mot pour des affaires sans piège ni magouille ? Je ne vois pas, monsieur. Ah, oui, un mot pour des affaires sans piège ni magouille. Oh oui, mais c'est du vieux français, monsieur. C'est un mot complètement hors d'usage. On le trouve même plus dans Larousse, monsieur.
Oui, c'est quoi ?
Honnête !
Et sa grande passion pour le théâtre venait probablement de son admiration pour Sacha Guitry. Robert Lamoureux.
Ce que j'écris n'a strictement rien à voir avec du Sacha Guitry qui écrivait selon les goûts bien mieux que moi. Hein. Ça n'a rien à voir. Moi j'ai mon style, il avait le sien. Ce qui m'a révélé lui, c'est le théâtre. Il m'a révélé le théâtre.
Vous l'avez vu jouer ?
Ah oui.
Plusieurs fois, vous l'avez rencontré ?
Ah oh ben, je ne sais pas. Mais...
Vous avez discuté avec lui ? Vous vous souvenez d'une rencontre avec Sacha Guitry ?
Particulière. Une rencontre. J'ai vécu près de lui, très près de lui, et aux pires heures de sa vie, j'ai vécu près de lui, dans sa chambre, près d'un mois. Alors le curieux, c'est que quand il est mort, on a interviewé des tas de gens qu'il avait bien connus, mais beaucoup moins que moi. Et que moi, on ne m'a jamais posé de questions sur Sacha Guitry. Alors moi, j'aurais pu en dire 10 fois plus que que la plupart de ses proches.
Vous étiez presque dans la confidence.
Oui, j'ai été d'une certaine façon son confident. Hein. Mm-hmm. Avec Daniel Darieux et Louis de Funès, on a travaillé sur son lit, on peut dire. On travaillait autour de son lit pendant 6 semaines. On a été dans sa chambre de 2h de l'après-midi à 6h du soir et on travaillait avec lui. Ah oui. Or, personne n'a jamais demandé à De Funès, ni à Daniel Darieux, ni à moi-même, comment était-il, comment faisait-il, quelles étaient ses réactions, rien. Mais on a demandé à des princes des lettres, des grands de la littérature, de nous expliquer un Guitry qu'ils avaient finalement beaucoup moins bien connu que nous.
Ouais. Mais qu'est-ce que vous travaillez avec lui, avec ce Sacha Guitry qui était malade ?
Une de ses pièces.
Laquelle, justement, faisant un rêve.
Ah oui ? qu'on a construit sur son lit et que j'ai transposé ensuite au théâtre des variétés.
Bon. Émile ! Émile ! Émile, vous pouvez disposer, Émile, si vous avez envie d'aller au théâtre, hein ? Bon, demain matin, réveillez-moi vers, 10h30, 11h, hein ? Enfin, je dis 11h, faut pas non plus 11h30, midi, quoi. Et c'est pas 5 minutes.
Première de Faisant un rêve pour vous, alors ça a été un souvenir particulier, vous aviez
un très grand et très beau souvenir. Mm-hmm. Parce qu'évidemment, il était couché dans sa chambre, alors on avait, exceptionnellement, on m'avait installé le téléphone dans ma loge, et au fil des actes, je lui téléphonais dans sa chambre, dans son lit, où il était couché, et je le tenais au courant des
réactions du public, de la vie de sa pièce.
Ouais, ouais. Et comme ça a été un énorme succès, sa femme a bien voulu me dire que c'était certainement la plus grande joie de la fin de sa vie.
Mmh. Ouais. Un autre grand admirateur de Sacha Guitry, c'était Michel Galabru.
Moi, j'étais le cancre que tout le monde vilipendait. J'étais complexé parce qu'on ne fait pas exprès d'être cancre. On est un cancre malgré soi. On ne cherche pas la punition systématiquement, ni les ennuis. Les gens se figurent qu'en vous punissant davantage, ils vont obtenir davantage. Non, parce que on est cancre, on est comme ça. On ne peut pas se changer. C'est ni les coups, ni les punitions ne vous feront changer. Vous êtes cancre parce que vous êtes cancre. Et quand j'ai vu que Sacha Guitry avait fait 12 sixièmes, j'ai pas besoin de vous dire que cet homme m'a enchanté, que je me suis penché de plus en plus pour le connaître. Et je n'ai pas été déçu. Et là, l'humour, la fumisterie de cet homme, cette espèce de... Les gens l'ont... Je me figurais que c'était un type imbu de lui-même, c'était un type extraordinaire qui faisait semblant de jouer, qui faisait l'important, qui prenait des voix pompeuses comme ça, parce que ça lui permettait, au bout de la phrase, de renvoyer une plaisanterie de haut vol.
Les archives du rire.
Qui est là ?
C'est le curé de Cucuniam.
De Cucu quoi ?
De Cucuniam.
C'est un grand jour aujourd'hui, Garigou. C'est le 1725e anniversaire de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et voilà.
Je voulais savoir combien vous avez de cucugnonnés au paradis.
Ah, Saint-Martin, je ne peux pas vous le refuser.
Tout est théâtre, à mon sens. Ce n'est pas une déformation professionnelle. Je trouve que tout est théâtre, même l'univers. C'est un décor, l'univers. S'il y a un dieu, il a voulu faire une représentation théâtrale où tous les éléments... Les étoiles, tout ce décor de ciel, de couleurs éclatantes. Bon, qu'est-ce que fait l'homme ? L'homme, par ses génies, des peintres géniaux, tout ça, il a essayé de reconstituer, de refaire, de redonner ses impressions. Mais le grand créateur de tous ces trucs, on ne sait pas qui est-ce, mais enfin, c'est splendide. Et le rire, c'est quoi ? C'est quand quand vous êtes, ça déstabilise. Je prends l'exemple du monsieur, il est important dans la vie sociale, il est directeur, il est ambassadeur, il est ministre, il est député, il est policier, il est je ne sais quoi, il représente quelque chose, il est docteur. Il marche avec une certaine allure, une certaine chose qui s'est composée peu à peu, par l'imitation de d'autres gens, par ses parents, par tout le monde. Il a fini par se composer un personnage, et ce personnage, parce qu'il va glisser sur une peau de banane, va être déstabilisé. Brusquement, il va perdre tout ça. Tout son rôle va s'effriter. En un moment, il va devenir autre chose. Un pauvre type qui s'est fait mal. Et les gens rient. Les gens rient à ce moment-là. Je crois que chaque fois que on vous enlève votre rôle, le rôle que vous êtes composé pour la circonstance, dès que un élément intervient extérieur qui vous fait manquer, eh bien, vous êtes comique. Vous comprenez ? Moi, c'est ma théorie.
Voilà Michel Galabru et sa théorie sur le rire. Michel Galabru rencontré, entre autres, en 1993 à Lausanne. C'est ainsi que nous refermons les archives du rire pour ce 6e épisode. Vous y avez entendu Jean-Claude Brialy, Jean Lefebvre, Micheline Dax, Marthe Villalonga, Popek, Daniel Evenou, Jacques Balutin, Robert Lamoureux et Michel Galabru, rencontrés à Lausanne, Fribourg, Paris et Vienne entre 1989 et 1996. On referme le rideau pour aujourd'hui, mais on reviendra bientôt. Au revoir.